les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8. Chaque samedi à 10h.
La conférence du jour est proposée par l'Institut de recherche pour le développement. Elle est animée par un duo de directeurs de recherche à l'IRD, Patrice Levent, agronome et économiste, et Alain Rival, biologiste.
Un livre en chercheur, ça sera un livre de chercheurs, puisque nous avons commis ce petit livre en 2013. Et notre objectif, c'était justement de défendre, en quelque sorte, une plante trop souvent attaquée et de faire mieux connaître les enjeux de son développement. On a dit beaucoup de bêtises sur le palmier, donc on a laissé dire d'abord, et puis un jour on s'est dit, bon, il faut quand même réagir, faire une présentation un peu plus équilibrée. Alors on n'est pas là pour défendre l'industrie, on n'est pas là pour défendre le palmier, mais pour vous proposer une lecture plus équilibrée du problème. Alors, la palme des controverses, pourquoi controverse ? Cette controverse est relativement récente, puisqu'elle date d'une dizaine d'années. Avant cela, le palmier était considéré comme une plante miracle, vraiment extraordinaire sur le plan agronomique. Elle a tellement bien marché qu'au fil des ans, sa culture s'est développée un peu partout, surtout en Asie du Sud-Est, et très rapidement, la plante est tombée victime de son succès, puisque les mouvements écologistes, environnementaux, se sont, à juste titre, inquiétés de son développement, puisque essentiellement elle allait se développer au détriment de la forêt primaire. Et c'est à partir de ce moment-là que cette controverse a commencé. Plante miracle ou plante maléfique, on était pratiquement les seuls à avoir une vision balancée, équilibrée. En général, le dialogue est très agressif entre ceux qui sont pour, les pros, et ceux qui sont contre. Et c'est très difficile d'arriver à se faire parler, de faire parler les uns avec les autres. Les pour, c'est bien sûr tous les industriels de la profession, essentiellement les industriels malaisiens, indonésiens. Et notre livre a été récemment traduit en malaisien, et ils ne comprenaient pas très bien le titre controverse, quelle controverse, il n'y a pas de controverse, l'huile de palme, au même titre que le caoutchouc naturel et l'étain ont été à l'origine de la fortune de la Malaisie. Donc il n'y avait pas de controverse en réalité. Par contre, ceux qui sont opposés aux palmiers, et ils ont plus de facilité que les industriels finalement de parler aux médias et justement de défendre les forêts primaires, puisque c'est l'essentiel de leur combat, puisque ce sont des ONG environnementalistes pour la plupart, et on cherche aussi à défendre donc les forêts primaires et leurs habitants, surtout les grands primates, orang-outan essentiellement. Alors, cache pas que effectivement, il y a eu de gros dégâts à ce niveau-là. Donc, le palmier à huile, qu'est-ce que c'est ? D'abord, bon, vous le savez un peu, c'est un petit rappel. Donc, le palmier à huile est originaire d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Il pousse de manière spontanée dans la forêt. Et les premiers habitants de ces contrées ont commencé à repérer des fruits rouges du palmier à huile, ont vu leur forte contenance en huile et se sont mis à les produire, à les ramasser d'abord et progressivement à les intégrer dans leur jachère et dans la sphère agricole. C'est assez surprenant de voir qu'une plante originaire de la forêt, plusieurs siècles après, se voit accusée justement de détruire cette même forêt. Alors il y a essentiellement deux espèces exploitées, Eleis guineensis, comme son nom l'indique, est originaire du golfe de Guinée, et Eleis oleifera, qui est originaire d'Amérique latine, qui a l'avantage de produire des huiles un peu qui est plus riche en acides gras insaturés, et on a la possibilité, Alain vous en parlera, de créer des hybrides entre les deux espèces. Alors, le succès du palmier à huile est dû à quoi ? Le palmier à huile est une usine à produire de l'huile. Elle produit en moyenne à l'hectare 8 fois plus que les autres, et pour certains 10 fois plus que les autres sources d'huile végétale. Et tout ça, ça se traduit en coût, en efficacité et en intérêt pour les producteurs et les usiniers. Le résultat, c'est que, comme vous le voyez là, l'huile de palme est maintenant la principale huile végétale produite au monde, avec 39% de la totalité, mais sur une surface qui est limitée à 7% seulement. Donc si on veut vraiment produire beaucoup d'huile sur une surface restreinte, c'est le palmier qui est la meilleure solution. Grâce à cette énorme production, rendement exceptionnel, l'huile de palme a aussi un prix de revient faible, plus faible que les autres huiles. C'est donc de loin l'huile la moins chère sur le marché. Et ça aussi, ça intéresse beaucoup de monde. Les producteurs qui récupèrent l'huile pour la transformer, tout à l'heure, et également tous les industriels qui vont avoir besoin d'huile pour leur production. Le palmier à huile a une répartition strictement intertropicale, et c'est là un de ses principaux problèmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le cultiver en zone tempérée, et il entre en concurrence avec les zones, les hotspots de biodiversité, forêts primaires, que ce soit en Amazonie, dans le bassin du Congo ou encore en Asie du Sud-Est. Alors, qu'est-ce qui est vrai de tout ça ? Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain ? Voici une petite affiche que j'ai photographiée à Sumatra, à Jambi. Donc, je vous traduis, traduction libre, la forêt est un don de Dieu, la protéger est notre devoir à tous. Forêt protégée, forêt conservée, population heureuse. La protection, la conservation de la forêt assure le bien-être de la population. Donc ça, c'est une affiche qu'on peut trouver un peu partout en Indonésie. Là, elle est en gros plan. J'ai reculé de quelques mètres. Et vous voyez ce qui reste de la forêt tropicale humide dans la région de Jambi, sur les Bukit Barisan Selatan. Et ça, c'est le gros problème du palmier à huile, du développement sans bornes du palmier à huile dans cette région. Ils ont détruit toute la forêt primaire des Bukit Barisan, et là, on parle en dizaines, centaines de milliers d'hectares. Et le pire, c'est quand ça marche bien, quand ça fait de l'argent, eh bien on va planter du palmier à huile, même sur des terrains qu'on n'aurait jamais dû mettre en valeur. Là, on est toujours à Jambi. C'est des terrains qui sont très fragiles, sur des pentes très fortes, avec des terrains sableux, très, très sensibles à l'érosion. Ils ont planté le palmier, ils ont défriché d'abord, ils ont planté le palmier, et deux ans après, ils n'arriveront jamais à produire sur des terrains pareils. Donc ça, tout ça, c'est plutôt négatif, mais, et là, en tant qu'agronome et biologiste, notre message, c'est attention. Ne nous trompons pas de cible. Tout le monde critique le palmier à huile. Le palmier à huile, lui, n'a rien fait. On n'a jamais vu de palmier à huile avec une tronçonneuse à la main. C'est le mode de développement qui est responsable des dégâts occasionnés en l'occurrence. Ce n'est pas le palmier en tant que tel. Et donc, c'est la raison de notre combat, Alain et moi. C'est quand même dommage de se passer d'une plante capable de produire 4 ou 5 tonnes d'huile à l'hectare, 8 fois, 10 fois plus productive qu'une autre plante, simplement parce que certaines personnes ont développé le palmier ou développent le palmier de manière scandaleuse. Là, ce n'est pas du palmier. Je vous ai mis une illustration de champ de coton. Pendant très longtemps, le coton, comme la canne à sucre étaient considérées comme des plantes esclavagistes. Et donc là, on a exactement le même problème. Ce n'est pas le palmier à huile qui détruit les forêts, c'est les hommes qui développent le palmier de manière destructrice. Et donc là, il vaut mieux travailler avec cette constatation bien ancrée plutôt que de se tromper de cible et de se tromper de combat. Les acteurs majeurs à l'heure actuelle, pendant très longtemps, jusqu'en 1960, le principal producteur mondial, c'était donc le golfe de Guinée, surtout le Nigeria. À partir de 1960, la Malaisie a pris le relais avec un développement industriel bien organisé. Et quelques années plus tard, comme il n'y avait plus de place chez eux, ils sont partis développer les plantations de palmiers à huile en Indonésie. À l'heure actuelle, 85%, 87% même, les derniers chiffres, 87% de la production se passe en Malaisie, en Indonésie. Le troisième producteur mondial, c'est la Thaïlande, c'est pas très loin. Et ensuite, le Nigeria, qui était premier producteur mondial et qui n'en a plus que 2%. Les Africains ont tout perdu, ils ont donné l'huile, ils ont donné les variétés sélectionnées, Ils se sont fait tout piller et maintenant le développement de plantations en Afrique ne peut se faire qu'en allant acheter des semences en Asie du Sud-Est. C'est un peu triste pour eux, mais c'est la réalité. Au niveau des pays consommateurs, là aussi on voit une production du Sud avec des pays consommateurs essentiellement dans le Sud, puisque c'est l'Inde, l'Indonésie, la Chine, le Pakistan sont les grands consommateurs, avec l'Europe, comme on peut le voir. Donc là, vous avez quelques chiffres, bon, je ne vais pas aller dans le détail des tableaux, mais vous voyez que 87% de la production vient d'Indonésie et de Malaisie. Quant à la consommation, 56%, c'est les quatre grands groupes de pays, la communauté européenne, mais surtout Inde, Chine, Pakistan. Donc, des pays qui sont intéressés par des quantités d'huile importantes, et bon marché. En Europe, on serait prêt à payer plus cher, mais aux États-Unis aussi, mais on ne représente que 18% de la demande globale. Donc tous les efforts qui sont faits, toutes les tentatives de forcer les pays producteurs, les compagnies productrices à respecter des règles de durabilité, c'est un peu difficile dans un contexte où justement on ne consomme que 18% de leur production. À quoi sert l'huile de palme? Alors on parle beaucoup d'huile de palme, mais il ne faut pas oublier que le palmier produit deux sortes d'huile. L'huile de palme, donc de la drupe, et l'huile de palmiste qui est produite par la graine, plus des tourteaux qu'on obtient lors de l'extraction, qui servent comme aliment pour le bétail, et la sève du palmier dans des pays africains qui est transformée en matango, en vin de palme, qui est aussi une production intéressante, sinon importante sur le plan économique. Le biodiesel est une possibilité. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait couler beaucoup d'encre, mais à l'heure actuelle, ça ne représente que 1% de la consommation totale. Dans certains pays, c'est plus élevé. En Colombie, c'est pratiquement la moitié de la production qui est transformée en biodiesel. Mais dans l'ensemble, c'est avant tout pour l'alimentation, 80%, l'oléochimie, donc tous les cosmétiques, lubrifiants, graisses, etc., etc., et un peu de biodiesel. L'intérêt de ces différents usages, c'est que lorsque le prix du pétrole augmente, on peut immédiatement, le prix du biodiesel devient plus élevé et on peut transformer l'huile en biodiesel. À l'heure actuelle, il y a une surproduction en Malaisie. Plutôt que de vendre l'huile à bas prix, ils ont décidé de transformer une partie importante de leur stock en biodiesel pour arriver à maintenir le prix. Donc comme il y a différents usages, différentes utilités, on peut jouer sur plusieurs tableaux. L'évolution de la demande historiquement a été énorme. La demande en huile a augmenté de 3% par an pendant ces 30 dernières années. Et donc ça, c'est le grand succès de l'huile de palme. C'est la raison pour laquelle de nombreux investisseurs n'hésitent pas à mettre leur argent dans ce domaine. Ils gagnent. La demande, elle est en forte croissance. Pourquoi ? Parce que là, on s'adresse à des populations, pays émergents, qui se nourrissent, enfin, j'allais dire de mieux en mieux, c'est peut-être une erreur, mais qui consomment de plus en plus d'huile. On était à 11 kg d'huile par habitant en 75 en moyenne, on est à plus de 20 kg maintenant, et on va encore accroître la quantité d'huile consommée. Avec un nombre d'habitants en forte hausse, le marché est plutôt bon, l'avenir est plutôt intéressant pour les producteurs. Dans le contexte mondial aussi, la production, les systèmes d'exploitation sont assez partagés. On parle beaucoup des grandes compagnies, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même en moyenne 40% de petits planteurs qui travaillent en liaison avec les agro-industries ou alors de manière indépendante, avec toujours une forte concentration de la production en Indonésie et en Malaisie. Mais aussi une interdépendance forte entre les oléagineux des pays tempérés et l'huile de palme. Donc là aussi, une raison pour laquelle l'huile de palme a été très critiquée, c'est que si vous vendez plus d'huile de palme, vous gagnez des parts de marché sur d'autres huiles, colza, tournesol, etc. Et vous entrez en concurrence avec des producteurs européens. Donc beaucoup d'actions contre l'huile de palme sont souvent financées par la concurrence, par des producteurs de pays tempérés et aussi des producteurs de soja. Ensuite, les petits producteurs voient un intérêt évident dans la production d'huile de palme. Et ça, c'est quelque chose qui est mal traduit souvent par les rapports des ONG, qui insistent plus sur l'exploitation des petits producteurs par les agro-industries et qui ne tiennent pas assez compte de cet engouement des petits planteurs. On y reviendra plus tard. Donc maintenant, enjeux et perspectives, comme on l'a vu, la demande va doubler d'ici 2050. Il y a une forte compétition entre l'usage alimentaire et non alimentaire de l'huile, des huiles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. L'enjeu sur le plan social, c'est d'arriver à préserver les droits des communautés et aussi de la main-d'œuvre, des plantations industrielles. Et surtout, et ça aussi c'est notre combat, développer les plantations villageoises, développer les petites plantations plus que les agro-industries. Et sur le plan environnemental, bon, comment faire pour accroître la production, augmenter les zones de culture, intensifier sans polluer et sans détruire ce qui reste de biodiversité. Et en plus, respecter, éviter d'agir sur le changement climatique en détruisant trop de forêts. Alors, un des moyens de faire ça, c'est justement d'aider les petits planteurs. Alors, le palmier est régulièrement présenté comme l'archétype de la culture industrielle. C'est vrai pour l'essentiel, surtout en Asie du Sud-Est. Ça, c'est des photos que j'ai prises au Cameroun. Dans toute la zone africaine, c'est une plante traditionnelle et qui est cultivée de manière artisanale avec beaucoup d'emplois. Bon, alors, après, lorsque une ONG qui n'aime pas le palmier prend une photo comme ça, vous avez deux façons de discuter la photo. C'est soit une quantité de travail importante, donc de fourniture de travail pour les populations locales, ou alors c'est l'exploitation des enfants. Différentes façons de voir la même chose. Pourquoi c'est intéressant pour les petits planteurs? Donc là, je vous donne juste deux petits graphiques. Productivité de la terre et productivité du travail. Pour les petits planteurs de la zone des tropiques humides, les choix, bon là c'est en Indonésie, les choix c'est faire de l'huile de palme, du caoutchouc naturel ou des agroforêts. Lorsqu'on compare les revenus, la productivité de la terre, elle est très, très en faveur de l'EVA clonal. Bon, c'est avec, en fonction des prix qui évoluent, c'est un peu fluctuant, mais en gros, c'est ça. En deuxième position, le palmier à huile. Par contre, lorsqu'on s'intéresse à la productivité du travail, il faut avoir à peu près 4 saignées hebdomadaires pour de l'EVA, alors que le palmier, on le récolte 2 à 3 fois par mois, donc beaucoup moins de travail, donc une meilleure rémunération du travail. Et ça aussi, c'est quelque chose de très positif pour les petits producteurs qui, avant tout, veulent une rémunération maximum pour leur travail. La déforestation, on a beaucoup accusé le palmier d'être responsable, le développement du palmier d'être responsable de la déforestation. C'est vrai, mais pas que. Par exemple, comme vous voyez là, entre 1990 et 2005, 21 millions d'hectares de forêts ont disparu en Indonésie. Il n'y a que 3 millions d'hectares qui ont été développés en palmier. Alors là, pour des tas de raisons, il y en a qui ont fait semblant, qui ont demandé l'autorisation, qui ont fait semblant de développer du palmier. Ils ont commencé par couper tout le bois et après ils ont disparu. Donc ça, c'est un grand classique de la région. Donc, il ne faut pas se tromper. On ne dit pas que le palmier n'est pas responsable d'une partie de la déforestation. Sur l'ensemble de l'Indonésie, ce n'est pas aussi élevé que ça. Si on regarde les développements récents à Bornéo, Kalimantan, c'est un peu différent. On arrive quand même à des chiffres de l'ordre de 30% de la déforestation qui sont liés au développement du palmier. Alors, il y a des alternatives. L'une de ces alternatives, c'est d'utiliser des surfaces déjà défrichées, déjà dégradées. Là aussi, beaucoup de travaux à faire. On a entre 10 et 50 millions d'hectares de terres dégradées en Indonésie. Donc des terrains où on pourrait développer du palmier sans avoir à couper davantage de forêts. Au Cameroun, dans toute l'Afrique, tout le golfe de Guinée, les rendements moyens des plantations villageoises sont inférieurs à une tonne, c'est 0,8 tonnes d'huile par hectare, alors que les petits planteurs indonésiens en produisent 4 tonnes. Donc là aussi, il y a une marge de progrès énorme. On pourrait au moins multiplier par 3 les rendements, les productions, sans avoir à augmenter la déforestation. Et donc, c'est rien qu'en utilisant les 50 millions d'hectares en Indonésie, il y a de quoi fournir en huile la population mondiale jusqu'en 2050. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour dire qu'il y a des marges de progrès et des possibilités.
Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc voilà, hein, Patrice vous a bien posé les problèmes. Une demande en forte croissance, une industrie qui rapporte, une façon de sortir de la pauvreté pour des petits planteurs qui n'ont pas beaucoup d'autres alternatives, une rentabilité à l'hectare imbattable, mais des questions de développement, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette culture-là. Une des alternatives, et vous avez vu beaucoup de cartes, hein, la cartographie, c'est le premier problème. Moi, je travaille en Indonésie, Patrice y a travaillé longtemps, on n'a pas de cadastre. C'est un pays sans cadastre. Alors, on peut faire ce qu'on veut, si on ne sait pas à qui appartient la terre, les propriétaires, eux, savent ce qu'ils ont acheté, ce qu'il y a autour. On l'a vu avec les feux de forêt récurrents, on peut très bien spotter par satellite le départ d'un feu de forêt au millimètre près, hein, sur son téléphone portable avec Google Maps, c'est pas un problème. Sauf qu'on ne sait pas à qui appartient ce bout de forêt, ou même ce bout de plantation, ou de forêt dégradée qui vient de prendre feu. Donc il y a un premier travail, beaucoup d'ONG s'y attellent. Nous, en tant qu'institut de recherche, on n'a pas les moyens ni les capacités humaines de le faire, mais on suit ça de très près. Premièrement, cartographier les surfaces, les frontières, à qui appartient quoi, les titres de propriété, travail de fourmi. Hein, on est sur un pays immense, hein, en Indonésie ou au Nigeria ou au Cameroun. Qui est à quoi et qu'est-ce qu'il y a dessus? Parce que les cartes du gouvernement, déjà en Indonésie, il y en a 4 qui ne se superposent pas. Celle du ministère de l'Industrie et celle du ministère de l'Agriculture, celle du ministère des Forêts, qui vient de se joindre dans le ministère de l'Écologie, heureusement, mais il y avait une carte de plus. Ces 4 cartes ne correspondent à rien, elles ne se superposent pas. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la photo que vous a montré Patrice, de la savane dégradée, utilisable pour faire plein de choses, soit de l'élevage extensif, etc. Si on y va maintenant, ça se trouve, c'est déjà une plantation, sauf qu'on ne le sait pas. Hein, les ONG font un travail de fourmi. Alors, cartographier et classifier. Qu'est-ce qui est important, hein? Ce qui est HCV, c'est High Conservation Value, hein, c'est le WWF, hein, une ONG bien connue, qui a commencé à travailler là-dessus. Greenpeace y est aussi, TFT, la plupart des grandes ONG, et c'est, elles aussi, il y a à peu près autant de biodiversité dans les paysages que dans les ONG. Donc, on fait avec ce qu'on a sous la main, mais on essaie, nous, en tant qu'institut public de recherche, d'essayer d'y voir un peu clair, de travailler au moins sur le même vocabulaire. Des zones protégées, haute valeur de conservation, les bords de rivière, hein, les diapos que vous avez montés, Patrice, c'est ça que moi je montre en enseignement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Hein, des bords de rivière défrichés, des zones pentues, des zones érodées, tout ça, normalement, dans le meilleur des mondes, on gère l'espace. Beaucoup d'ONG le font avec des enfants, parce que ceux qui ont à gérer ça, on est sur des pas de culture de 20-30 ans, donc ce n'est pas les exploitants d'aujourd'hui qui vont prévoir le paysage ou les extensions ou les retraits de plantations, ou les afforestations, les replantations de forêts. C'est les enfants, donc on fait dessiner les enfants, c'est des petits projets, c'est pas des surfaces énormes, mais c'est assez joli de voir comment on peut arriver à gérer l'espace, intégrer les plantations sur les endroits où il faut, et garder d'autres espaces pour du vivrier, hein, parce qu'il faut quand même manger, il faut attendre 5 ans avant que la plantation produise, et puis ça produit que de l'huile, ça produit pas du riz, ça produit pas de fruits, donc il faut prévoir des cultures alternatives, et puis protéger des corridors de biodiversité, parce que là, si on détruit, c'est fini, ça reviendra pas, et puis voilà. Alors les bonnes pratiques environnementales, c'est ça, hein, c'est ne pas planter n'importe comment. Ça commence à devenir, à être documenté sur les grands primates, hein, qui sont des espèces iconiques. Alors avec les foxa, si on veut travailler sur la biodiversité, dans une forêt tropicale, il faut travailler sur les termites. Faire des campagnes pour toucher le public à des termites, c'est pas évident. Avec des orang-outans en peluche, c'est beaucoup plus efficace. Donc ces grands primates sont devenus un peu des espèces emblématiques, mais c'est... Nous, ça nous va, c'est pas grave, c'est un vecteur de communication comme un autre, les éléphants aussi, bien sûr. L'éducation des enfants, on s'est beaucoup impliqué avec WWF, donc à faire des conférences régulières sur ces bonnes pratiques, pour faire savoir ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses. Il y a encore des bulldozers qui coupent la forêt à Bornéo, bien sûr, trop vite, trop facilement, mais il y a aussi des gens et des sociétés privées qui commencent à réfléchir, sous la pression de vous, hein, des ONG, des consommateurs du Nord, qui demandent des certifications, qui demandent des pratiques environnementales et agronomiques plus respectueuses de l'environnement. Donc il se passe des choses. Ces bonnes pratiques environnementales, elles sont documentées. Des bonnes pratiques agronomiques, alors tout ça, c'est les résultats issus de la recherche, on ne va pas faire du détail, mais on travaille pas mal sur OCIRAD et avec l'IRD et d'autres partenaires sur ces indicateurs agro-environnementaux, c'est-à-dire des mesures très complexes, mais qui se traduisent par des indicateurs simples. Feu vert, feu rouge. On est bon, on n'est pas bon. Là, on est rouge, c'est-à-dire qu'on a mis du nitrate partout, on retrouve ça dans les nappes, on arrête, on change de système d'exploitation. Là, on est bon. On a à la fois augmenté la productivité sans polluer et sans exposer les travailleurs à des doses de fertilisants. Et pas de pesticides sur palmier, donc ça, c'est une chose qu'il faut dire aussi. Mais on utilise des fertilisants pour augmenter la productivité, comme pour toutes les cultures. Ça, ce sont des bassins de décantation en sortie d'usine, où on, comme une station d'épuration, sauf que on s'est aperçu que ces bactéries qui digèrent les résidus d'huile génèrent beaucoup de méthane, un gaz à effet de serre redoutable, et de CO2 aussi. Donc on clôt, il faut voir le boulot, hein, ça fait 3 ou 4 terrains de foot, c'est pas petit. Mais bon, les industries, là, c'est en Thaïlande, s'y mettent. Hein, il y a beaucoup de boîtes, de jeunes boîtes qui les aident à faire ces systèmes de captation. Et ça fait du biogaz, et ça retourne à l'usine, et ça génère de l'électricité. Ça, ce sont des nichoirs à chouettes et frais qu'on a mis en place un peu partout, en Afrique de l'Ouest, et puis aussi en Colombie, et puis en Indonésie, en Malaisie. Ce sont c'est le meilleur système qu'on a pour enlever les rats des plantations. On met des chouettes, donc il n'y a pas besoin de raticides, ça marche très bien. Elles se plaisent pas mal, elles ont été vite adaptées, et puis voilà, on met une cabane comme ça tous les 3-4 hectares, et puis la nuit, puisque c'est des nocturnes, elles font le travail, elles enlèvent les rats des plantations sans qu'on ait besoin d'utiliser des produits chimiques. Alors, l'initiative RSPO, voilà, ça, voilà, on a vu ces bonnes pratiques, il se passe des choses. On est arrivé à sensibiliser quelques coopératives, pas mal d'industriels, à essayer de s'intéresser, comme ça a été fait sur le bois, à la certification de la durabilité. Comment vous, consommateurs du Nord, vous pouvez être sûr que le produit que vous achetez vient d'une huile de palme qui respecte ses contraintes environnementales et éthique aussi, hein, puisqu'il y a une partie, dans la certification, il y a une grosse partie droits de l'homme et respect des travailleurs. Donc RSPO, c'est une initiative business to business. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, nous, CIRAD, URD, on n'est pas membre de droit, on est observateur. Donc on a observé, moi j'ai fait toutes les réunions RSPO depuis 1999, on a observé la création de cette initiative, on l'a accompagnée, on a travaillé au groupe de travail, quand il y a besoin d'un avis technique, mais ça ne s'adresse pas à nous, nous on n'est pas producteurs d'huile. Alors c'est notre force, justement, on n'est pas relié à une industrie. Quand on s'intéresse à la filière palmier, c'est à la fois pour l'observer, l'accompagner, et puis voir ses effets sur l'éradication de la pauvreté, c'est pour ça que nos instituts ont été créés, de développement. Au départ, c'était deux blocs, WWF et les ONG, et Unilever de l'autre côté. On en est à presque 2000 adhérents, donc ça marche. C'est une plateforme qui se réunit tous les ans. C'est très frustrant, parce que ça avance très lentement. Ça marche au consensus. Donc voilà. C'est-à-dire que dès qu'il y a un des membres, il y a sept grandes classes de stakeholders, donc de participants. Dès qu'il y en a un qui n'est pas d'accord sur un des problèmes, ben on rediscute tout, et puis voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de science là-dedans, hein. C'est business to business. Il faut que le business avance avec des absents de taille. Nous, d'abord, pas de recherche, on a envie qu'il y ait un peu de science là-dedans, donc on essaie de tirer, vous allez voir à quoi ça correspond, cette certification, la tirer vers un peu plus de scientifiques, puis il manque les gouvernements. Et ça, c'est le problème. C'était créé pour échapper au gouvernement, pour aller vite, pour éviter la corruption, les lenteurs bureaucratiques, etc. Parce que c'est évident qu'une loi de protection de la forêt, toute simple, c'est pas la même en Papouasie, ni au Cameroun, ni en Indonésie, ni en Malaisie, ni en Colombie. Donc si on met tous ces gens autour de la table, on va y passer 5 ans et on n'aura rien. Les industriels étaient pressés, ils sont sous la pression des ONG du Nord. Donc ils ont créé cette initiative qui a ses défauts et ses qualités. Sa principale qualité, c'est d'exister, c'est de drainer beaucoup d'adhérents. Son principal défaut, c'est d'avoir oublié le gouvernement et d'être volontariste, c'est-à-dire que c'est un club. Vous y rentrez, vous y rentrez pas, personne ne vous oblige. Alors, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça, mais... Donc c'est allé vite, 2005, premier principe critère, 2008, première implantation, 2009, les premiers lots CSPO, Certified Sustainable Palm Oil, l'huile de palme certifiée, tamponnée, certifiée par RSPO. Ces bonnes pratiques dont on parlait tout à l'heure, elles sont liées à l'action de la recherche, hein, c'est des transcriptions directes de ce qui se passe en recherche. Première chose, les semences, ça part de là. Le premier acte de durabilité, c'est choisir les bonnes semences. Il n'y a rien qui permet de différencier une bonne semence d'une mauvaise. Ce sont tous des semences hybrides, c'est-à-dire qu'il faut que les deux parents soient contrôlés. C'est très difficile à produire, il faut vraiment faire des fécondations croisées, mais c'est très efficace. On est arrivé, ça sont des chiffres réels, hein, d'une plantation avec laquelle moi je travaille en Indonésie, on a plus de 60% de rendement rien qu'en utilisant des semences sélectionnées. Donc nous, notre travail, c'est de créer, là ce sont des clones aussi, ce sont des semences un peu particulières, et les diffuser pour que les petits planteurs, aussi bien que les grands, donc ça veut dire réseau de pépinerie, ça veut dire du contrôle qualité à tous les niveaux, et accès à ce matériel sélectionné. Et là, avec des semences, ça c'est de la lutte génétique classique, avec des semences sélectionnées, est arrivé à éradiquer complètement la fusariose, qui était un très gros problème, hein, qui empêchait le développement du palmier en Côte d'Ivoire. En une vingtaine d'années, on est arrivé à l'éradiquer complètement du pays. Donc ça, commencer par planter du matériel sélectionné, c'est la première vraiment action de durabilité. J'ai calculé qu'une semence de palmier, ça coûte $1, et au cours de sa vie économique, ça rapporte $1,300. Donc le bon choix de semences, et là, nous, on a fait beaucoup de vulgarisation, beaucoup d'éducation de pépiniéristes, on a créé des filiales pour ça. C'est pas gagné, mais ça part de là, quoi. Alors, comme l'a dit Patrice, on a affaire à une usine, à un modèle physiologique complètement unique dans la reine végétale. C'est une usine à huile. On n'a pas vu de plante, bon, ça a été sélectionné, même naturellement, capable de produire à partir de photosynthèse. Donc, c'est des travaux qu'on fait là, essayer de comprendre comment cette plante aussi plastique, hein, qui s'adapte à des tas de... y compris dans les marécages, on peut la planter à peu près partout, c'est bien ça le problème, c'est que si on veut faire n'importe quoi avec, il n'y a pas de problème, on va faire de l'huile et de l'argent. Comprendre comment cette usine en photosynthèse devient une usine à huile est pareil. Une fois qu'on a compris, essayer de faire intégrer ces résultats-là dans les programmes de sélection pour proposer ces résultats de la recherche aux planteurs. On a vu ça, hein, les indicateurs, rouge-vert. Améliorer les pratiques agronomiques, ça aussi c'est un des travaux principaux de la recherche. Alors RSPO, on y revient. Deux grandes familles de critères, des critères sociaux, des critères environnementaux. Donc si vous voulez être certifié, c'est exactement un contrôle technique pour votre voiture. Ça a exactement les mêmes défauts. Moi, j'ai une voiture qui est une poubelle et qui vient d'avoir le contrôle technique, donc ça ne veut pas dire grand-chose. au moins, voilà, c'est pas pire, quoi. Donc, ces batteries de critères, bon, on va pas les voir en détail, c'est le minimum minimum. Hein, c'est-à-dire que une plantation qui est certifiée RSPO, elle a satisfait. Alors en dessous, ça c'est les principes. En dessous, il y a des critères avec des seuils. Hein, c'est-à-dire il y a des teneurs en pesticides dans les nappes phréatiques, il y a des nombres d'heures de travail, tout ça, il y a des seuils. Hein, il y a des inspecteurs de travail assermentés qui viennent vérifier la certification, exactement comme vos voitures. Vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous êtes obligé d'aller dans un garage certifié, c'est un peu pareil. Et ça coûte très cher. Hein, le coût de la certification. Pour un petit planteur, c'est $40 l'hectare, tous les 3 ans. Un petit planteur, c'est 4 hectares, 2 hectares, quelquefois un demi-hectare, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, et on va voir tout à l'heure que c'est une des rares chaînes de production où le coût de la certification, il n'est pas au distributeur. C'est le distributeur qui va mettre son tampon en SPO sur la boîte de gâteau ou la crème à tartiner que vous allez acheter, mais le producteur, lui, n'aura aucun bénéfice. Aucun industriel, aujourd'hui, n'est prêt à donner un premium, à donner une prime pour acheter de l'huile certifiée. On verra que ce n'est pas neutre dans le débat non plus. Alors c'est un peu compliqué la certification parce qu'on est sur une chaîne de valeur complètement mondialisée. Ça se passe au Nigeria, en Indonésie ou en Malaisie. Ça se passe à votre supermarché au coin de la rue. Et entre-temps, il s'est passé des choses. La certification, elle passe par la certification du producteur. On a vu hein, des bassins de récolte, soit des grosses plantations, soit des petits planteurs indépendants qui ont leur point d'arrivée, c'est l'huilerie. Donc si vous voulez que l'huilerie soit certifiée, il faut que tout le monde satisfasse ces critères de certification. Ensuite, la chaîne d'approvisionnement, là on sort du pays producteur, mais cette chaîne-là aussi, elle va être certifiée. Les stockeurs, transporteurs, là c'est comme du bio, hein, c'est pareil. Vous ne pouvez pas, dans un cargo, mettre la moitié de la cuve en certifié et en non certifié. C'est des filières ségrégées. Si vous voulez faire de l'huile RSPO, vous devez avoir le double de flotte de tankers, ou alors faire ce qu'a fait Ferrero, hein, la boîte qui fait le Nutella. Eux ont racheté une plantation certifiée, ils ont racheté toute la chaîne. Comme c'est des gros, très gros, ça n'a pas posé de problème, tout est certifié, c'est presque de l'AOC, puisque ça vient tout de la même plantation de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais dans la plupart des cas, y compris en cosmétique, où ça devient très difficile, parce que les gens achètent des toutes petites spécialités, des tout petits ingrédients, quelques kilos ou quelques tonnes d'un produit spécifique, c'est très très difficile de remonter jusqu'à la raffinerie pour certifier la durabilité de la chaîne. Bon, alors là, c'est pareil, hein, il ne faut pas être naïf à tous les niveaux. Il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui mélangent. Il faut leur mettre des bureaux Veritas aux fesses, et puis tout ça, ça coûte, et puis voilà. Ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas du poulet de Bresse ou du coteau du Luberon. Hein, ce n'est pas de l'IGP dans une petite région, vendue pas trop loin, où si on va à la cave acheter son vin, on sait qu'on a ce qu'on cherche. Là, c'est beaucoup plus compliqué. J'étais tout à fait d'accord quand on a créé Green Palm au début RSPO parce que ça doit être une mesure transitoire. C'est-à-dire, vous achetez, c'est un peu comme les crédits carbone. Vous êtes au courant qu'il y a une initiative de certification qui se passe. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez montrer à vos consommateurs que vous faites quelque chose, mais vous n'avez même pas la cartographie de vos fournisseurs. Nestlé, le grand Nestlé lui-même, a vraiment la carte physique de ses fournisseurs depuis 2 ans. C'était un boulot titanesque. Mars est en train de le faire, enfin, tout le monde s'y met, Carrefour, Marks & Spencer, Walmart, toutes les grandes chaînes de distribution s'y mettent, Danone, mais c'est un boulot titanesque. Alors, on leur laisse cette liberté de dire, bon, ok, ça veut dire on s'en occupe, en gros. On achète à des plantations certifiées. Chaque fois que vous, producteur certifié, vous mettez une tonne d'huile sur le marché, vous avez droit à un certificat. Vous mettez un certificat sur le marché. Donc les gens qui n'ont pas de fournisseur certifié rachètent ces certificats. Bon, et le bénéfice va à l'organisation des RSPO et on espère à terme à la certification des plus planteurs. Ça doit être forcément transitoire. Alors là, il faut leur botter sérieusement les fesses, là aux industriels, parce que Mars, les premiers, ça fait 5 ans qu'ils sont là et qu'ils y sont très bien. Ça met $1 la tonne qui en vaut 800, c'est quand même pas un énorme effort, dans la machinerie des RSPO. Mais ça ne vous garantit à rien que le produit que vous achetez, et c'est même le contraire, le produit que vous achetez, il a été fait de l'huile normale. Tous ces autres certificats sont un peu basés sur le système FSC pour les bois. Hein, quand vous achetez un salon de jardin ou un cahier, vous allez avoir un petit logo FSC qui va vous dire si c'est une source mixte ou une source certifiée complète. Donc bilan de masse, ça veut dire que ce qui rentre dans votre usine, et c'est très important pour les cosmétiques, comme on disait tout à l'heure, ce qui rentre dans votre usine en certifié, en non certifié, vous avez besoin d'un produit très spécifique pour faire des rouges à lèvres ou une préparation très spécifique, vous ne trouvez pas sur le marché. Ça arrive, hein. BASF, même les grands chimistes, ils n'arrivent pas à avoir un produit chimique demandé par l'industrie, là, aujourd'hui, maintenant, certifié pour demain, non. Donc, générer un peu, mais un peu, ce n'est pas ça qu'attend le consommateur, c'est combien. Donc, on fait un bilan de masse, c'est-à-dire, il y a, sur les 10 tonnes d'huile de palme que j'ai acheté cette année, j'en ai eu 9, donc c'est certifié, c'est mesuré, c'est attesté par des factures, des bons d'entrée dans l'usine, et ça vous donne droit à votre produit, et il contribue à la production, il n'est pas à 100% certifié. L'AOC et la Rolls-Royce, c'est ça. C'est identifié préservé et ségrégé. Ségrégé, c'est des filières séparées, comme on a dit tout à l'heure, bio, non bio, mélangez jamais. Identité préservée, c'est ségrégé qui vient du même endroit. Ça, c'est l'AOC véritable, parce qu'il y a une indication d'origine territoriale dessus. C'est ce que fait Ferrero pour l'unité là, par exemple. Ils ont eu, c'est une chance, enfin, c'est une bonne stratégie commerciale, ils ont acheté toute la chaîne de production depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc là, ça vient de la même plantation, de la même usine, c'est stocké au même endroit à Manchester, et ça va directement dans les usines de Ferrero. Et parce qu'ils sont énormes, hein. On a beaucoup de petits chocolatiers, de PME qui ont du mal à s'approvisionner, hein. Et la cosmétique, c'est encore pire. Donc voilà, vous avez Green Palm, bon, qui est, ça veut dire, je sais, ça existe, je m'en occupe. Bon, et nous, la réponse, c'est go plus en vraiment, quoi. Parce que là, ça vous engage à pas grand-chose. Ça aussi, le bilan de masse, si c'est 1 pour 99, vous pouvez retourner dans la case de départ, comme au jeu de loi, vous n'avez pas fait grand-chose. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très coûteux, c'est un investissement pour l'avenir, et pour vous, oui. Alors, il y avait 128 marques, c'est peut-être pas à jour, il y a à peu près 200 marques de savonnettes, de produits, de gâteaux, où vous avez vraiment certifié ou mixte. Vous avez la possibilité de choisir, mais c'est pas beaucoup encore. Alors voilà le problème. Là, on est au cœur du problème. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on plafonne à 60%. C'est-à-dire qu'on demande à la partie la plus pauvre de la chaîne de valeur de faire des efforts, d'investir dans la certification, mais personne n'achète. Il reste 52% de l'huile certifiée sur le marché, tous les ans, qui repart comme huile normale. C'est comme si vous cassez la nénette à faire du bio, personne n'achète, vous repartez dans le circuit normal, vous n'allez pas vous taper la certification et tout le bazar pour rien. Et ça, ce n'est pas incentif du tout. Donc on passe notre vie à convaincre des gens qui ne sont pas persuadés d'utiliser la certification et qui font ça pour du beurre, c'est qu'à le dire, c'est pas pour du beurre, c'est de l'huile, mais qui n'ont pas de bénéfices directs à la certification, sauf s'ils sont aidés par des banques de développement, des gouvernements ou des ONG, qui est le cas de quelques coopératives, mais c'est le doigt d'une main, hein, c'est pas beaucoup. Alors, quelques vérités, cette demande qui continue à croître, Patrice vous en a parlé, et c'est pas demain que ça va s'arrêter, c'est porté par la croissance démographique, on peut faire de la croissance zéro, nous, pour se faire plaisir ici, mais vous n'aurez pas un habitant d'un pays émergent qui va être d'accord pour faire la croissance zéro demain. Il va autant de téléphones portables, de voitures, de télé à écran plat et de McDonald's que nous. C'est comme ça. On peut lutter contre ça dans une ONG si on veut, ou si on est motivé, mais les chiffres sont là, malheureusement. Accroissement des populations, de leur niveau de vie, qui se traduit immédiatement par une consommation en gras. On a vu ça à l'après-guerre chez nous, ça a explosé, comme par hasard. C'est l'activité rurale la plus rentable sous les tropiques. Vous gagnez avec du palmier à huile 12 fois ce que vous gagnez avec du riz. Patrice vous a montré les chiffres. Vous pouvez faire autre chose à côté parce que ça ne demande pas un travail énorme. Même si ce n'est pas très bien payé par rapport aux coûts mondiaux, même si vous gagnez 4 ou 5 dollars par jour en ouvrier de plantation, ça reste une activité très rentable. Et c'est quand même une sacrée usine à photosynthèse. On a vu ça, donc ça capte du CO2 à gogo. Si on compare une prairie à une plantation de palmier, il n'y a pas photo. Il ne faut pas le comparer à une forêt primaire. Notre ami Baziron, hein, que tu as mis en première, c'est un ancien collègue qui est devenu un ayatollah du palmier, il rencontre des bêtises considérables, il n'a pas hésité à intervenir auprès des Nations Unies pour faire classer les plantations de palmiers comme forêt. Bon, ben vas-y, mais voilà, c'est complètement ridicule, ça n'a rien à voir, c'est une seule espèce. On a des milliers d'espèces à l'hectare dans une forêt primaire, 5 ou 6 strates, voire 10. Là, on a une strate, une espèce, ça n'a rien à voir au niveau biodiversité, mais c'est extrêmement efficace en captation de CO2. Donc, on fait beaucoup de conversions de pâturage extensif en Colombie, ça n'a rien à voir. On passe du simple au quintuple. Il faut savoir, mais on est quand même très en deçà d'une forêt primaire non plus. Il ne faut pas faire dire aux chiffres ce qu'ils ne veulent pas dire. Et cette biodiversité naturelle, elle est très loin. Hein. On est à 4, 5, 10% si on fait attention de la biodiversité naturelle d'une forêt primaire qui est par définition imbattable. Alors quelques lances aventures sur les terrains qui ne sont pas les nôtres, parce que ni l'un ni l'autre on est nutritionniste, mais comme c'est des questions qui nous préoccupent tous, on quelques fondamentaux, comme on dit dans le ballon ovale. L'huile parfaite n'existe pas. Hein, il y a beaucoup de mythes. Le régime crétois, bon, voilà. L'huile qui a la bonne composition en acide gras essentiel, bien équilibré, comme ça, cadeau de petit Jésus, il n'y a pas. Donc, la solution, c'est les mélanges, bien entendu. Voilà, du bon sens. C'est la dose qui fait le poison, bien évidemment. Hein. Là aussi, les effets nocifs, des acides gras saturés, insaturés, polyinsaturés, tout ce qu'on a fait, le bazar sur les oméga 3 qui sont comme produits de destruction d'autres acides. Puis, il faut être modeste, hein, la recherche sur les lipides, c'est 10 équipes dans le monde, on en a 2 en France, il n'y en a même pas 10, il y en a peut-être 5 ou 6 dans le monde, c'est pas un coefficient de chercheurs monstrueux, donc il faut être modeste. Il y a des tas d'acides gras saturés considérés comme des poisons, qui sont des antillages de l'acide myristique, hein, qui était considéré par l'ANSES comme un acide gras à éviter. On s'est aperçu il y a 5 ans que c'était un constituant des membranes cellulaires, que c'était un anti-âge beaucoup plus efficace que les coenzymes Q et tout ce qu'on vend dans les pharmacies. Donc il faut être modeste. La nutrition lipidique, elle n'intéresse pas grand monde. Il y a beaucoup de charlatans, de pseudo-scientifiques sur la nutrition, de conseillers diététiques, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas la science. Le métabolisme des lipides en lui-même, c'est un sacré boulot. Il n'y a pas grand monde qui s'y met. Donc, bon, la dose fait le poison. Ça, c'est un fondamental. Voilà, on n'a pas besoin dans notre régime de rajouter, surtout en France, hein, French paradox, on a les pays d'Europe qui consomment le plus d'acide gras saturé, charcuterie, produits laitiers, fromage, on n'a pas besoin de plus, à l'évidence. Donc, mais on verra que quand on parle du dopage, on est vraiment sur des chiffres vraiment ridicules. Et un boycott, un bannissement total d'une composante de notre alimentation, c'est une absurdité nutritionnelle première. On l'a fait, quelques études ont fait sur des dames anglaises il y a une dizaine d'années. Voilà, toutes les dames qui ont fait un régime sans lipides, ben elles sont toutes mortes. Parce que le corps compense, elles ont commencé à consommer beaucoup plus de glucides, hein, puisque le lipide, l'acide gras saturé, c'est une molécule énergétique, on le verra tout à l'heure. Évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. S'il suffisait d'enlever ou de faire attention rien qu'aux lipides, la vie serait belle. Nous, on a travaillé tous les deux en Indonésie. Tous les gens mangent de l'huile de palme. Il n'y a pas de mot pour dire cuit, hein, c'est frit. Goreng, tout est frit, quasiment. On devrait marcher sur des cadavres à Jakarta quand on sort. Tous les gens devraient être morts de... Ben non. Malgré une consommation unique d'huile de palme depuis une ou deux générations maintenant, ben non, il n'y a pas d'effet mesurable sur la santé parce que c'est intégré à un style de vie qui n'est pas celui que nous avons, nous. Et puis c'est la seule source d'acide gras de leur consommation. Il n'y a pas de produits laitiers ou très peu, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, très peu de viande. Voilà. C'est très compliqué ces histoires de régime alimentaire, d'effets sur la santé d'un composant qui serait l'huile de palme ou même les acides gras saturés. C'est plus compliqué que ça. Quelques fondamentaux aussi qu'on n'a pas inventés, que des collègues nous ont donnés. C'est un composé naturel, ce n'est pas un poison. Hein. On ne va pas s'empoisonner à manger de l'acide gras saturé, parce que si vous mangez du beurre, c'est exactement la même chose. Personne ne s'est empoisonné au beurre, pas à ma connaissance. C'est un composé naturel, présent dans le lait maternel, parce que c'est très énergétique, là aussi. Hein. Et là, il faut faire attention, quand on lit les études, et même les études sur les études, les méta-analyses, si on compare un enfant sous régime d'allaitement et un enfant plus âgé, il n'est pas du tout équipé pareil pour dégrader les acides gras. Donc l'effet d'un acide gras saturé ne va pas être le même en fonction de la population, même d'humain. Alors si on se met à comparer le cochon, le chien, tous les animaux de laboratoire, le lapin et l'homme, alors là, voilà. Une fois de plus, on n'a pas à faire un poison, on a à faire un produit naturel dont la consommation rentre dans un équilibre général. Alors, l'huile de palme, elle est assez facile à cibler puisque on s'attaque, et les ONG sont en business plan, hein, c'est des ONG, mais c'est des multinationales, il faut qu'ils gagnent leur vie aussi, les gens, ils ont le droit, moi ça ne me gêne pas. On s'attaque à, vous avez vu que c'est une chaîne de valeur qui est très mondialisée et très complexe. Et on s'attaque à la partie émergente de l'iceberg, donc on choisit une cible qui est là, Nestlé et KitKat. Ils sont très forts, hein, tout est... Donc deux controverses, deux questions primordiales, on les a vues, hein, défraîchissement de santé, Voilà. Les gens ne connaissent pas. On a fait des radio-trottoirs l'an dernier, avant le salon de l'agriculture. Moi, j'ai attendu des trucs colossaux, quoi. Tant pis pour moi, c'est ma faute. C'est moi qui aurais dû le dire ailleurs, ou plus souvent. Voilà, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un palmier, ne savent pas ce que c'est qu'une plantation de palmiers. Ils ont une représentation très manipulée par les médias, connaissent pas les petits planteurs, connaissent pas les efforts qui sont faits par certaines sociétés, par certains États, les pontages qu'il y a entre les grandes sociétés et les ONG. Bon, c'est à nous aussi de le dire, on verra ça à la fin. C'est une filière compliquée, hein, et pas très transparente jusqu'à aujourd'hui. Il y a des producteurs, des raffineurs, des négociants, des transformateurs et des distributeurs. Alors quand on s'attaque à Nestlé et à KitKat, on attaque un produit sur la face émergente de l'iceberg. C'est pas tout à fait juste, quoi. Mais bon, chacun sa stratégie. Et puis il faut pas être naïf, hein. Patrice vous l'a dit, les marchés sont interdépendants. Si le soja éternue, ou si le soja s'enrhume, le palmier éternue, réciproquement, tout est lié. Une sécheresse au Brésil, les cours montent. Une bonne année au Brésil comme cette année, les cours tombent, voilà, tout est, et c'est la guerre, hein. La guerre des huiles, on ne l'a pas inventé, ça dure depuis l'après-guerre, personne ne se fait de cadeaux, s'il y a un défaut sur les contraintes environnementales du palmier, il faut bien croire que les gens qui travaillent sur le soja, ils ne vont pas faire de cadeaux, ils vont faire le maximum pour, pas de théorie du complot, hein, c'est la guerre commerciale classique, mais il faut bien regarder d'où vient l'incendie et qui l'a allumé. Alors, là où ça nous a intéressé, nous, en tant que chercheurs, c'est que ça révèle, alors on l'a vu, hein, cette filière-là, c'est un peu le laboratoire des grandes évolutions, hein, la vieille Europe qui devient un marché minime, 12-15%, 17% aux États-Unis, ça ne croit pas beaucoup, ben, comme les télés, comme les voitures, comme tous les marchés, hein, les marchés, ils sont dans les pays émergents, et l'huile de palme n'y échappe pas, c'est 80%, 100 moins 17, 83% du marché qui part dans les pays émergents. Donc peut-être que là aussi, il faut qu'on fasse du bruit chez nous, mais qu'on fasse attention à englober, et c'est sûrement le défaut majeur des RSPO, englober aussi les négociants, les traders, les fabricants. Alors, la mondialisation nous aide par un effet, un dommage collatéral, puisque voilà, hein, les Nutella, les KitKat, les Nestlé, les Mars, les Carrefour, les Walmart, les Harrods, Max & Spencer, c'est des chaînes mondiales maintenant aussi. Et ils n'investissent pas chez nous, ils s'en vont de chez nous, ils investissent dans les pays émergents. Et ces grandes boîtes-là de distribution, c'est pour moi qui l'ai inventé, ne doivent avoir qu'une politique. Ils se tirent une balle dans le pied s'ils ont un produit non certifié sur un Carrefour brésilien et un produit certifié le même, de qualité, de référence sur le marché, là ils sont morts. Si une ONG tombe là-dessus, ils ne peuvent pas se permettre de faire des efforts. Donc quand ils font des efforts, eux aussi c'est des efforts globaux. Donc c'est pas mal, ça va dans le bon sens. C'est pas parfait, ils font pas ça par philanthropie, faut être naïf non plus, mais ça va dans le bon sens aussi. Alors ce qu'on a vu là, nous, c'est cet amendement Nutella, d'où c'est parti. Voilà, tiens, il faut qu'on boucle le budget de la Sécu, où est-ce qu'on peut prendre des sous? Ah non, la filière viticole, elle est calme depuis 10 ans, on va pas la réveiller. La bière, on a essayé 1%, ça a été à peine. Alors les produits... Les céréaliers, tout ça, c'est des lobbies, les produits laitiers, parce que bon, si on veut taxer les acides gras saturés, chez nous, c'est pas compliqué. Hein. On a des producteurs de cochons, on a des producteurs de charcuterie, on a des produits laitiers, des fromagers, mais là, on touche pas. On s'est dit, ben, tiens, on va prendre une filière tropicale, qui a pas la cote, que personne aime, et puis on va multiplier par 4 les taxes, et puis comme ça, on va boucler le budget de la Sécu. Bon. Sans nous concentrer, il y a quelques personnes quand même qui connaissent un peu le palmier en France. On a quelques élus politiques, nous, dans nos instituts, des citoyens normaux. On aurait aimé qu'avant qu'un amendement aussi stupide que celui-là, on discute un peu avec les gens qui connaissent un peu la filière. Non. Ça révélait ça chez nous. On s'est dit, tiens, les gens ne connaissent pas. Pas du tout. Et magasins U, les grands magasins U, sont faits quand même ratiboiser deux fois devant les tribunaux par l'Association des planteurs de Côte d'Ivoire, dont j'étais un des membres fondateurs, qui avait disparu, qui est rené de ses cendres en disant, comment nous, planteurs ivoiriens qui sont nés dans les années 60, on peut nous accuser de faire ça, alors que quand on est acheté la plantation, il n'y avait plus de forêt depuis belle lurette. Soit parce que c'était notre ethnie qui faisait des cultures sur brûlis, soit parce qu'il y avait des plantations coloniales avant nous, mais nous, planteurs ivoiriens de 2014, il n'y a aucune relation entre la production d'huile et la déforestation, désolé. Ils ont perdu pour diffamation. Il n'y a pas eu de débat technique, on ne nous a rien demandé, on n'est pas allé témoigner. C'était une bataille légale pure et dure. On a dit, vous nous diffamez, vous nous accusez de faire quelque chose qu'on ne peut pas avoir fait. C'est impossible. Donc là aussi, hein, nous, ça a été une des peut-être une des tendances majeures de la création de la rédaction de ce petit bouquin, qui n'est pas une encyclopédie, mais on s'est dit, il y a vraiment des trous de connaissances colossaux. Et ce qu'on a fait, nous, avec les salons, les stands au salon de l'agriculture, les radios-trottoirs, ça nous a convaincus de ça aussi. Alors, boycotter, substituer. Pourquoi pas? Et c'est pas moi qui le dis, c'est Greenpeace, qui dit les marques, les grandes marques, elles oscillent entre opportunisme et marketing. Est-ce que ça vaut le coup d'afficher sans huile de palme, ce qui est illégal, on pourra en discuter après, est-ce qu'on affiche qu'on fait des efforts, ou est-ce qu'on se passe de cet ingrédient-là, parce qu'on peut très bien s'en passer, on a vécu sans huile de palme jusqu'à en 1995, on dira pour la France, et puis voilà, on vivait très bien. Hein. Alors, quand on boycotte, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Il y a des conséquences économiques, c'est-à-dire que pour les fournisseurs, s'ils permutent sur une autre huile, ils vont devoir dépenser plus. Là aussi, opportunisme ou marketing. C'est la moins chère du marché. Elle a des propriétés physico-chimiques irremplaçables. Hein, c'est une margarine naturelle. Si vous voulez faire la même chose avec de l'huile de colza, il va falloir l'hydrogéner artificiellement, avec un risque de production d'acides gras trans, qui sont, eux, des poisons reconnus. Là, ce n'est pas une suspicion, c'est une certitude. Donc, il faut faire attention aux conséquences. Là aussi, on balance entre qu'est-ce qui reste rentable, qu'est-ce qui nous permet encore de vendre nos produits, ou qu'est-ce qu'on fait qui risque de mettre la santé des gens en danger. Des conséquences industrielles, l'hydrogénation, on vient d'en parler, connaissances sanitaires. Hein, on voit que si on transforme des huiles tempérées artificiellement pour leur donner les mêmes caractéristiques que l'huile de palme, on a des problèmes. Donc, et les industriels, ils ne veulent pas nous tuer non plus. Ils sont rués sur l'huile de palme parce qu'ils avaient cette contrainte de l'ANSES de ne pas utiliser des huiles hydrogénées. Il y a des conséquences sociales, donc Patrice vous en a parlé, hein, des petits planteurs. Il n'y a pas que des agro-industries. Il y a beaucoup de gens, hein, on parle de plusieurs dizaines de millions rien que sur l'Indonésie, donc vous multipliez ça par deux, si l'Indonésie correspond à peu près à la moitié de la production. Donc ça fait une trentaine de millions de personnes qui dépendent directement ou pas de cette filière. Donc boycotter, c'est bien gentil, mais il va falloir trouver du boulot à tous ces gens-là qui habitent au fin fond de la campagne. Hein. On n'est pas dans les villes, là, on est au fin fond de la Papouasie ou de Bornéo. Et les conséquences environnementales, et Patrice a commencé par ça à juste titre. Si on arrête de produire d'huile de palme, il faudra 6, 7, 8 fois plus de surface pour produire la même qualité d'huile. Quantité d'huile, pardon. Où on la prend, hein. On a vu le soja en Amazonie, c'est pas jojo comme histoire non plus. Je dis pas qu'il ne s'est rien passé sur le palmier, qu'il ne continue pas à se passer des choses dont on pourrait se passer. Mais les alternatives, elles sont là. Où est-ce qu'on va trouver, à surface égale, une culture oléagineuse qui va produire la même quantité d'huile à l'hectare? On peut attendre des miracles des OGM. Tout le soja est OGM, déjà, de toute façon. Mais bon, même un miracle OGM qui multiplie les rendements par 8, ce que j'ai jamais vu dans ma carrière d'agronome et qu'on verra sûrement pas avant de disparaître de ce monde, c'est pas possible. Hein. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Boycotter, sachant que, bon, les chiffres de Patrice sont éloquents aussi, on est 15% du marché, et puis on se casse la gueule et on consomme de moins en moins. On boycotte demain, bingo, boycottons demain. Le marché est tendu, on a vu, il n'y a pas de stock. On boycotte demain, il y a 15% d'huile qui rentre dans le marché. Les prix s'effondrent de 15%, la Chine achète tout et l'environnement continue à être dégradé exactement de la même façon. Et on sort du coup, là on pénalise à fond et définitivement les quelques personnes et les quelques compagnies vertueuses qui ont fait des efforts de rentrer dans RSPO et d'aller au-delà, parce que je n'ai pas raconté toute l'histoire, on peut en reparler si ça vous intéresse, mais RSPO est long et consensuel. Et un peu mou du genou, hein, il faut dire. J'ai passé suffisamment de temps en sortant avec des boules, comme disent les jeunes, sérieuses, en me disant que je viens de perdre mon temps parce qu'on n'a pas avancé d'un poil depuis l'an dernier. N'empêche que cette initiative-là, elle est là, c'est la moins mauvaise du moment. Que ce soit sur, je vous dis, on peut faire la liste, il y en a 6 hein, d'adhérences dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le sucre, ils ont 250 adhérents, 7% du marché. On a 2000 adhérents, on est presque à 25% du marché, c'est pas si mal. Il y a encore des gens qui trichent avec les labels, etc. Il y a beaucoup de moralisation à faire, mais bon, on conclut. Des enjeux de taille, des controverses et des acteurs multiples. Voilà. Il n'y a pas de, Patrice a dit, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas d'esclavagiste, c'est très compliqué. Et les bons, les méchants, là, il faut gratter, et des fois, on se retourne et ils ont changé de camp. Les gens qui accusaient il y a 10 ans les compagnies de faire du greenwashing, les plus durs, ils sont maintenant directeurs des services environnementaux de ces compagnies-là. Ce rôle de la culture du palmier dans la lutte contre la pauvreté, il est reconnu. Hein. Il y a même la Banque mondiale, avec qui j'ai pas mal travaillé, accorde des prêts, sauf qu'ils sont beaucoup plus exigeants qu'avant, ils ont bien raison, pour des projets villageois, bien foutus, certifiés, avec une cartographie des forêts, etc. Et ça va dans le bon sens, ça a pris du temps là aussi. Hein. La réforme des statuts de la Banque mondiale sur le palmier à huile, ça a pris presque 10 ans. Alors, au-delà de la RSPO, ça bouge beaucoup. Du côté industriel, POIG, c'est Palm Oil Initiative Group, c'est un groupement industriel qui a dit, on n'arrête pas de critiquer RSPO, on est membre fondateur, on est englué dans ce système, on va aller au-delà. Ils ne sont pas allés très loin, hein, ils ne sont pas perdus en route. Hein, mais bon, ça va dans le bon sens. Manifesto, c'est pareil, il y en a même qui sont dans les deux. Allons au-delà et garantissons un premier label qui serait huile de palme, zéro déforestation. Bingo, allez, on y va, moi, il n'y a pas de raison, moi, je ne suis pas industriel, donc on regarde ça avec Patrice à la loupe. Alors, les deux derniers standards, c'est beaucoup plus intéressant. MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil, ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, des standards nationaux. Parce que là, on a des discussions super intéressantes, parce que nous, le développement, c'est notre métier. Les Indonésiens nous disent, vous êtes bien gentils, vous occupez de nous, vous êtes bien braves, on vous remercie de ça, mais on est des grands garçons, vous savez. Et si nous, on fait des standards, c'est nos électeurs, c'est nos travailleurs dans les plantations, nos travailleurs dans les usines de transformation. Les standards, on peut les faire tout seul. Bingo, là aussi. C'est des déclinaisons très copier-coller des RSPO. Hein. On ne va pas réinventer la roue. On est tous d'accord qu'il ne faut pas faire travailler des enfants, qu'il ne faut pas exposer des gens à des doses de pesticides colossales, faire attention aux eaux de ruissellement, aux villages, etc. MSPO est volontaire, un point faible. Moi, je m'engage, ma société s'engage à obéir aux standards nationaux. ISPO, c'est une autre façon de faire, qui est intéressante aussi. Alors, on voit bouger ça, nous, hein, ça bouge tous les jours. ISPO, ils ne sont pas cassés la tête, mais ils ont peut-être raison. Ils ont pris tout le corpus, c'est l'indonésien, la même chose, Indonesian Sustainable Palm Oil. Ils ont pris tout le corpus de loi qui existait sur le palmier à huile. Ils en ont fait, ils ont mis un beau ruban autour, dit voilà, ça, c'est les standards nationaux. Donc, si vous obéissez pas à ça, vous n'avez pas l'autorisation d'exploiter et vous allez en tôle. Parce que les standards volontaires, c'est bien gentil, mais si vous n'y obéissez pas, vous n'arrivez à rien. Il n'y a pas de sanction. Et c'est là où le bas blesse. C'est qu'on fait des beaux standards bien brillants, internationaux, avec des beaux tampons, des beaux labels de qualité, mais qui c'est qui fait le gendarme derrière? C'est les États. Hein, c'est les États qui doivent taper sur la tête de ceux qui sont contrevenants au code de la route, au code de n'importe quoi. Mais s'ils ne sont pas intégrés dès le début de la négociation à l'édification de ces standards, ben ils ont le droit de dire, vous êtes bien gentils, mais nous, on va le faire le nôtre, et ça va être notre loi indonésienne ou malaisienne, et c'est nous qui allons mettre les gens en prison, ou les faire sortir s'ils nous montrent qu'ils ont fait des efforts. Donc tout ça, c'est mouvant, hein, ça bouge tous les jours. Et notre rôle, il est pas nul, le vôtre et le nôtre. Nous, en tant que chercheurs, hein, on l'a vu, il y a un défaut d'information, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et puis qu'on ne va pas arrêter. Il y a un autre bouquin sur lequel on travaille en ce moment qui est plus destiné aux enfants, beaucoup d'illustrations pour expliquer ce qu'est la plante et pourquoi on parle du palmier, parce qu'eux aussi ils voient passer des trucs qui ne sont pas forcément les billes pour comprendre. Les consommateurs, la certification, la base électorale des ONG puissantes, hein, Greenpeace, WWF, qui veulent changer les marchés, ils ne veulent plus tellement refaire le monde, ils veulent bouger les standards des marchés. C'est leur business plan, c'est leur façon de vivre et de travailler, et pourquoi pas. Donc, nous, on est concernés en tant que citoyens, consommateurs, chercheurs. Et nous, chercheurs, ben voilà, on a vu que les gens ne savaient pas ce qu'ils devaient savoir. Moi, j'étais au cœur du débat OGM parce que je suis biologiste moléculaire. Les gens prenaient position pour ou contre les OGM, sans savoir si c'était une cellule, un noyau et de l'ADN. C'était non, ou oui, ou je m'en fous, mais ça ne va pas. Quand on fait un choix comme ça, il faut savoir de quoi on parle et avoir le minimum de savoir. Les gens ne savaient pas ce qu'ils devaient savoir avant de prendre une décision. Donc le palmier, ça s'applique parfaitement à ça aussi. Voilà, donc on fait des conférences comme aujourd'hui, des brochures, des articles, des posters, des articles de vulgarisation, des articles de grand public. Hein. J'ai fait plus de 80 interviews sur l'huile de palme parce qu'il y a un besoin de connaissance. Donc on est dans le débat. Et voilà. Oui, mais pas n'importe où, ni n'importe comment. Et merci beaucoup.
Merci à Patrice Levent et Alain Rival, dont vous pouvez trouver le livre « La palme des controverses, palmiers à huile et enjeux du développement » aux éditions Quae Essai. Bonne journée sur Radio Grenouille. Yeah.